Julian Assange peut-il échapper à son extradition vers les États-Unis? Le fondateur de WikiLeaks risque 175 ans de prison dans ce pays pour avoir révélé au grand public des documents secrets sur les activités de l'armée américaine. Julian Assange est actuellement détenu au Royaume-Uni et son procès s'ouvre aujourd'hui à Londres. Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour madame.
Vous êtes l'un des avocats de Julian Assange. Comment appréhende-t-il ce procès en extradition? Il est plutôt dans un état d'esprit combatif, résigné?
Combatif bien sûr, mais en même temps, depuis des années, il se heurte à l'administration américaine et c'est un combat titanesque qu'il s'apprête à livrer.
Et comment va-t-il aujourd'hui? On sait que le rapporteur de l'ONU sur la torture a dit qu'il était en danger. Quelles sont les nouvelles que vous avez?
Il y a ce que vous venez de rappeler. Il y a un collectif de 60 médecins qui, en novembre 2019, indiquait que son état de santé allait à ce point mal qu'il était susceptible de mourir en prison. Et tout à fait récemment, le 17 février 2020, pour être précis, il y a 117 médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme dans la revue scientifique The Lancet, en expliquant qu'à la fois physiquement et psychologiquement, il allait très mal. Moi, je l'ai rencontré, c'est un homme qui aujourd'hui est prostré, a du mal à s'exprimer, c'est l'effet de la détention.
Et vous pensez qu'il sera quand même capable de se défendre lors de ce procès là qui s'ouvre aujourd'hui?
Ah, je pense qu'il va mobiliser toutes les énergies qui lui restent, oui.
S'il est extradé vers les États-Unis, il ira forcément en prison. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte lors d'un procès sur le sol américain.
Il a moins de chances d'être acquitté que Donald Trump devant le Congrès, c'est une évidence.
Qu'est-ce que les États-Unis...
Mais voyez, vous,
dites-moi.
Pardonnez-moi, vous posiez la question de savoir s'il pouvait échapper à l'extradition. Je voudrais vous rappeler que le 28 janvier dernier, il y a quelques jours, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rappelé que sa détention et les poursuites pénales constituaient un dangereux précédent pour les journalistes. Et cette même assemblée a rappelé qu'il faisait l'objet aujourd'hui de traitements cruels, inhumains, dégradants, et que son extradition, ça c'est le plus important, vers les États-Unis devait être interdite, et qu'il devait être libéré sans délai.
Et donc vous, en tant qu'avocat, vous pouvez vous appuyer sur cette déclaration pour essayer d'empêcher cette extradition?
À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ça n'est tout de même pas rien.
Parce qu'au cœur de cette affaire, c'est ce que dit justement l'Assemblée que vous venez de citer, il y a la défense, au-delà du simple cas, qui n'est pas simple d'ailleurs, de Julian Assange, c'est toute la défense de la liberté d'informer qui est au cœur de cette affaire.
Oui, d'ailleurs, la conférence de presse que nous avons organisée la semaine dernière, y participait bien sûr Reporters sans frontières, qui rappelle qu'en réalité, c'est tous les journalistes qui sont concernés. Moi, j'ai envie de dire là, tous les journalistes qui ne sont pas américains, parce que les Américains sont protégés par leur constitution. Et en réalité, tous ceux qui publient, qui diffusent... On va quand même rappeler deux choses, si vous voulez bien, pour vos auditeurs.
Allez-y.
En 2015, grâce à Assange, on apprend que trois présidents français, Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont été écoutés par les Américains. Et que deux ministres de l'économie, en l'occurrence M. Moscovici et M. Barouin, l'ont été également. On va aussi apprendre dans une vidéo qui s'appelle « Collateral Murder » un certain nombre de bavures, voire bavures que l'on peut qualifier de crimes de guerre commis par les États-Unis.
Qu'est-ce que les États-Unis reprochent exactement à Julian Assange? Quels sont les chefs d'accusation?
Alors c'est très complexe, mais les États-Unis lui reprochent ce que je viens d'évoquer, notamment cela. Et puis il y a des choses... vous savez, quand les États-Unis se sentent concernés par leur sécurité, je pense qu'ils s'affranchissent de toutes les règles de droit international. Guantanamo, par exemple, en est un exemple. Je pense qu'il n'y a plus de règles. Et on voit bien que la situation et la vision qu'a l'administration américaine change selon la couleur politique. Parce que Obama, par exemple... vous le savez, souhaitait abandonner les poursuites. Trump les a repris. On en a d'ailleurs une autre illustration, c'est le soldat Manning, qui a été gracié condamné à 35 ans de prison par un tribunal militaire gracié par Obama, et Trump a remis, si j'ose dire, cette infernale machine en marche. Et aujourd'hui, Manning est soumis à des pressions. Soit il balance à Assange et il est libéré, soit il reste en détention. Parce que Manning a toujours affirmé que Assange n'avait pas été son complice. Donc on est dans des enjeux qui ne sont plus judiciaires.
Mmh. Et c'est pour cela que vous souhaitez que Julian Assange bénéficie du droit d'asile en France pour éviter qu'il se retrouve justement face à cette justice américaine avec tous les travers que vous venez de nous décrire. Mais pour quel motif mérite-t-il l'asile en France ? Parce qu'il faut le motiver, c'est pas juste une simple demande, il faut des arguments.
Oui, ben d'abord je voudrais vous rappeler qu'il fait votre métier, qu'il est journaliste, et que c'est à raison de cela qu'il encourt 175 ans de prison. Et notre Constitution, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme, rappelle que quand un homme est menacé dans sa liberté, notamment pour ses raisons, c'est l'article 53-1 de la Constitution, qui rappelle que les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté.
Mmh.
Voilà un texte clair, et on souhaite évidemment mettre un terme à cette situation qui est... ubuesque, surréaliste, inhumaine.
Julian Assange lui-même...
175 ans de prison.
Oui. Julian Assange lui-même avait écrit une lettre ouverte à François Hollande en 2015 pour faire une première demande pour bénéficier de ce droit d'asile. Ça n'avait pas abouti. Pourquoi celle-ci aboutirait davantage ?
Ben, d'abord, il y a eu une lettre ouverte, mais il n'y a pas eu de requête déposée, étayée, charpentée en droit. Moi, j'ai demandé à ce que le président de la République, M. Emmanuel Macron, me reçoive. On va lui déposer une requête charpentée.
Mais l'asile, c'est pas du ressort du président.
Et puis, pardonnez-moi, je vous rappelle le texte que je viens de vous lire, qui concerne les autorités sans les définir. Précisément. Et puis, je voudrais vous dire que depuis la précédente demande qui a été faite oralement, il y a des éléments nouveaux. Il y a ce que les médecins ont écrit, il y a ce que le 28 janvier 2020, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé. Il y a le travail du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le Suisse Nils Melzer, qui le 9 mai 2019 explique qu'il y a maintenant des troubles physiques, bien sûr, dûment constatés, et puis tous les symptômes d'une exposition prolongée à une torture psychologique. Je rappelle aussi pourquoi la France, que Julian Assange a des points d'attache avec notre pays, à la fois professionnel, puisque Wikileaks a été hébergé pour partie en France, et puis il a un petit garçon mineur, de nationalité française qui vit en France.
Et tout ça, vous allez pouvoir l'écrire noir sur blanc pour formuler cette demande de droit d'asile. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Vous étiez l'invité du 5-7.